en coulisses avant qu'elle monte sur scène, elle, pour faire son show, son heure de concert. J'avais espéré un petit moment avec elle. C'était la première fois que je la voyais. Et donc, voilà, évidemment, femme incroyable, très impressionnante, très, très impressionnante. Une aura incroyable. Et elle me parle et elle me dit « Ok, j'ai écouté ce que t'as fait, c'est très très cool, t'as une super voix et les mélodies sont dingos. » Bah, déjà là, j'étais en train de fondre à l'intérieur de moi-même, j'ai essayé de garder une contenance mais ça n'allait plus. Et ensuite elle me dit « Mais tu sais, toi et moi, on est des survivantes. » Elle m'a tuée sur place quoi.
Bonjour à tous, vous écoutez Cadavre Exquis, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois une chanteuse franco-malgache. Adoubée par Kezia Jones et Fatoumata Diawara, elle allie parfaitement musique traditionnelle et songwriting singulier. Un maillage parfait qui lui permet de rendre hommage à ses racines, le tout dans un projet solo moderne et authentique. J'ai le plaisir d'accueillir Joan Radao. Salut Joanne.
Salut Jordan.
Comment ça va?
Trop bien. Et toi?
Bah bien, je suis très content de te recevoir. Merci d'être venu jusqu'à moi.
Merci de m'inviter surtout.
Et merci de participer à ce podcast qui s'appelle donc Cadavre Exquis, dans lequel je décompose des parcours inspirants. Je suis très content de parler de toi, de ce projet musical, de ta double culture et projet que tu as pu faire découvrir à des gens sur scène là, très récemment, hier.
Oui. Exactement.
Comment ça s'est passé?
C'était génial. C'était génial, c'était ma première expérience à Nantes. Premier concert au Trempeau, premier concert au Bis Festival. Donc, il y avait vraiment un triptyque de première fois condensé en une soirée. Et un accueil incroyable. On a super bien joué. Enfin, je suis assez contente de ça, de ce passage.
On parlera de la scène un petit peu plus tard dans l'entretien. Mais je commence de la même façon avec tous mes invités, vraiment pour planter le décor. En plus, ce projet, c'est vraiment toi. Tu l'incarnes à 100%. Tout simplement, où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi?
Alors, je suis née à Clamart, 92. Et j'ai grandi à Fontenay-aux-Roses, 92, banlieue sud.
Ce qui n'est pas le cas de tes parents.
Non.
T'es la première génération qui est née vraiment
exactement.
En France.
Ouais. Ouais. Mes parents sont nés à Madagascar, à l'époque où c'était français, encore. Donc, ouais, ils ont débarqué ici à 16 piges, à peu près. Et, voilà, moi, je suis née là.
Mais t'as grandi dans vraiment cette culture, ces coutumes.
Oui, totalement. En fait, c'est assez simple. Hein. Mes parents voulaient une intégration complète pour moi, pour ma sœur. Donc, c'était un peu interdit de parler malgache à la maison. Puis, il fallait avoir un très bon niveau de français. Il fallait exceller en dictée. Enfin, tu vois, un peu le topo. Mais à côté de ça, tu ne peux pas effacer une enfance pour eux et des croyances et des habitudes et alimentaires, musicales. Quelque part, même si je pratiquais pas la langue à la maison, j'avais le terreau qui était présent quand même.
Et tes parents, ils faisaient quoi comme métier justement quand tu vivais en Corse sous leur toit à l'époque?
Ma mère a travaillé pour l'UNICEF, bien des décennies. Elle a toujours été là-bas et d'ailleurs, grâce à elle, j'ai rencontré Jacques Chirac. J'avais 7 piges. J'avais une liste comme ça de requêtes pour le gouvernement. Il n'a pas écouté. Et mon père, il est dans l'informatique. Et il a contribué pas mal à l'essor de la téléphonie à l'époque.
Donc, tu n'as pas grandi sur l'île de Madagascar, mais voilà, tu partageais cette culture quand même au quotidien, en tout cas sous le toit familial. Cette culture, elle est aussi dans ton projet. C'est ça vraiment, ton projet, c'est le lien... les origines, la France, Madagascar, celle du cœur et celle de la raison, entre guillemets.
Ouais, grave. Bah, j'en parle beaucoup dans mes chansons, j'en parle évidemment dans ce projet. Ça a longtemps été un conflit. Tu bouffes malgache à la maison, mais quand t'es à l'école, à la cantine, c'est autre. Et moi, je me souviens que j'étais dans des écoles plutôt bien mixées, si je peux dire. En tout cas, avec plus de représentation, avec des enfants qui avaient plein d'origines différentes. Donc voilà, moi, j'étais un peu... labelliser la malgache. Ouais. On a toujours un copain malgache dans sa classe, quoi. Bon, bah, c'était moi. Et voilà. Donc, c'était pas forcément facile. Et ça, c'est. Ouais, je pense que les premières années, c'était une difficulté de jongler entre les deux. Même si je n'ai connu que ça en tant qu'enfant et qu'on s'habitue vite aux choses, je me suis rendu compte après que c'était compliqué.
Puis c'est ça, enfin, non. Les personnes que je reçois dans cette émission qui ont une double culture, c'est qu'ils en souffrent, peut-être le terme est un petit peu fort pendant l'enfance, Et c'est qu'après, après l'adolescence, peut-être limite à l'âge adulte, qu'on se rend compte de vraiment de la richesse et qu'on l'exploite au maximum.
Exactement. Bah, en tout cas, pour ma part, c'est exactement ce qui s'est passé. Et oui, je crois que souffrir, c'est pas un mauvais mot. Hein. Je pense que je l'aurais employé aussi. Il y a une certaine souffrance à pas savoir où se placer, qui on est. Mais comment dire, ces questions d'identité peuvent concerner n'importe qui, finalement. C'est pas parce que t'as pas de une carte d'identité malgache que tu peux pas comprendre ce que je raconte, heureusement. Mais... Ouais. Et étonnamment, ça vient plus tard avec peut-être le fait de rencontrer d'autres gens et d'échanger sur ce sujet-là, autre que ta famille, autre que tes parents. Peut-être aussi notre propre regard par rapport à ce que nous renvoie une certaine société en tant qu'adulte aussi, et les chances et les opportunités qu'on a ou qu'on n'a pas. Je pense que ça vient comme ça. Hein.
Et tant qu'on est encore à la petite enfance et l'enfance, je voulais savoir si la culture était présente chez toi ou plus généralement l'art, quelle que soit sa forme, la musique, est-ce que la télé était allumée, est-ce que tu allais voir des spectacles ?
Ouais, grave. Mes parents, c'est des grands mélomanes. Si tu veux, le dimanche matin, la musique à bal, mon père, il avait des énormes enceintes Bose. Voilà, donc il nous éclatait comme ça. Ma mère, pendant qu'on faisait tous le ménage, on se mettait à danser avant le grand déjeuner dominical. Et en fait, la musique toute la journée, tout le temps, tous les jours. Et mon père m'inscrit au conservatoire à 4 ans et demi pour faire de l'éveil musical au conservatoire, voilà. C'était inévitable.
Mélomane, mais pas musicien, du coup
il a... Pas du tout. Alors, pendant longtemps, il a fait genre... Il est pianiste. Et en fait, je suis pas détestée que je raconte cette histoire. Mais quand j'étais plus jeune au conservatoire, tu sais, il fallait que les parents suivent les enfants. Et vérifier un peu les devoirs. C'est très, très rigorique un peu, hein, le conservatoire. C'est très rigide parfois. Donc, tu as 4 ans et demi, tu as des grands devoirs le samedi soir avec ton père. Et je crois qu'il avait un peu honte de ne pas avoir, lui, poursuivi des études musicales parce que son père, par contre, était pianiste. Professionnel. Et je ne l'ai pas connu, son père. Mon grand-père, je ne l'ai pas connu. Et donc, il a un peu culpabilisé de ça, de ne pas avoir suivi les traces de son père, de ne pas avoir écouté son père au moment où il a eu la chance de pouvoir prendre des cours. Donc, c'est, je pense, pour ça que j'ai fait du conservatoire. Hein. Et donc, il faisait genre devant la prof qui maîtrisait le sujet, tu vois. Et un jour, je lui dis, mais papa, tu sais vraiment jouer enfin, tu... Et il me dit, mais oui, évidemment, bien sûr. Et donc, il se met au piano et là, il improvise. Et alors moi, je comprends, la musique, c'est bon, tu vois, j'avais 2-3 années de cours, je capte que c'est n'importe quoi, que là, on est dans des impros, mais complètement... Mais on était presque à la limite, tu vois, du contemporain, où il y avait un délire. Et, donc, et mon père, c'est surtout l'attitude qu'il avait quand il jouait et qu'il improvisait sur le piano, qui était tellement, tellement sincère, tellement authentique, que je sais pas, au final, je l'ai cru. Je me suis dit, ok, tu joues, d'accord. On maintient ça.
Tes parents ont inscription au conservatoire, je crois, 4 ans, tu me corrigeras si je me trompe.
4 ans, oui.
C'est un âge où on ne choisit pas vraiment ce qu'on fait. C'est pas si on va faire ça toute notre vie, mais est-ce que tu as senti un rapport particulier avec la musique ?
Je pense que j'ai eu plein de fois l'occasion d'arrêter. Je voyais des copains qui avaient commencé en même temps que moi, qui étaient complètement dégoûtés par le truc. Le solfège, on sait bien que parfois, ce n'est pas des grands coups de cœur. Mais moi, j'étais à fond, quoi. Je comprenais tout, j'avais l'impression d'apprendre une langue qui était évidente, qui était là, environnante, et c'était très normal, c'était ma place. Là, pour le coup, c'était ma place. Autant, est-ce que j'étais française ou est-ce que j'étais malgache, c'était une question, autant, est-ce que je suis musicienne, non.
T'as appris le piano ?
Ouais, je commençais par le piano.
Un petit peu plus tard, tu as fait un voyage à New York, et je t'en parle parce qu'il y a une invitée qui a vécu un petit peu la même histoire, qui est allée là-bas et elle a fait un open mic. Enfin, c'est une scène ouverte, hein, concrètement, une oui. façon un peu informelle de se produire devant des gens, sans préinscription, etc. Là, tu avais déjà un projet qui était un peu affiné, tu chantais encore de manière un peu confidentielle. Comment ça s'est passé pour se lancer comme ça ?
C'était trop stressant. En plus, je me souviens très bien, c'était à Greenwich Village. Et si tu vois, c'est le quartier des artistes. Voilà. Historiquement, il y a des choses, des grandes figures qui sont passées par là, qui ont vécu là-bas. Et donc, ce café Vivaldi, il était réputé pour accueillir des songwriters, mais les meilleurs. Tu vois, c'était un vivier de graines qui allaient émerger, exceptionnel. Moi, j'arrive là, j'essaie de gratter un passage. Et il y avait un énorme piano à queue dans la salle. Et je joue une compo et un titre de Frank Ocean. Et ça prend. Et c'était la première fois que je jouais une compo devant des gens, et surtout des gens qui avaient l'habitude d'écouter des pièces, quoi, des chansons d'autres, de jeunes auteurs. Donc j'ai pris une petite claque, hein. Je me suis dit, encore une fois, ah, oh, je suis à ma place, je crois, là. ça va.
Et là, tu avais déjà initié un petit projet ou c'était encore un peu...
C'était encore à l'état de rêve, ouais. C'était encore à l'état de rêve. J'avais juste la satisfaction de me dire que j'étais capable d'écrire une chanson, quoi.
Et là, entre ces premières années au conservatoire et 20 ans, 21 ans, où tu es à New York, en train de faire cette scène ouverte, qu'est-ce qui t'a bercé musicalement? Quels sont les groupes que tu as pensé, les albums?
C'est tellement dur de répondre à cette question à chaque fois, parce que ça m'oblige à remonter dans des souvenirs. Alors, je pense que les premières chansons, les premières musiques que j'écoutais, c'était Mozart, concrètement, parce qu'on commençait par La Flûte Enchantée, voilà, à l'éveil musical, c'était ça, donc ça... Ça m'aura vraiment marqué et presque défini. C'est-à-dire qu'à 6-7 ans, je pleurais, je me souviens très bien, je pleurais chez ma tante, devant mon petit piano. Et elle me dit, mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à composer comme Mozart. Je lui dis ça, tu vois. Donc là, elle me dit, écoute, respire un coup, là, ça va aller. Personne ne sait faire ça. Mais donc, ouais, Mozart, coup de cœur, je voulais lui ressembler, quoi. Et plus tard, Bob Marley, ça, c'est plus mon papa. Il écoutait beaucoup, tous les albums. Jubi Love, c'est peut-être le titre qui me parle le plus. Et ensuite, j'ai découvert moi par moi-même Lauryn Hill dans Sister Act. Et tu vois l'histoire, c'est une jeune fille, une jeune femme qui veut chanter, mais sa mère lui interdit. Et donc, elle trouve un peu du réconfort auprès d'une bonne sœur, enfin bon, voilà. Et bah, je sais pas, ça m'a parlé. Je pleurais avec elle quand elle était dans son lit et qu'elle était interdite de sortie. Je vivais avec elle ses frustrations. Et je dirais une dernière artiste, Alicia Keys, parce que c'était un peu le pont entre la musique classique et le hip-hop et la soul. Et c'était la première fois que je voyais une meuf, Tismé, qui joue au piano, qui faisait du piano classique, et ça pouvait être genre badass.
Ça te parlait, quoi, en termes de représentation?
Mais grave. À fond. Bah parce que moi, je sortais du conservatoire, j'en avais fait déjà une dizaine d'années et je me suis dit, putain, c'est boring en fait, le conservatoire, c'est pas du tout rock'n'roll, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire avec le conservatoire? Tu vas draguer personne et tu vas. Il n'y a rien. Et là, je vois Alicia Keys complètement. Elle est fascinante, quoi. Elle est trop belle, elle est trop canon.
Puis au-delà de la musique, c'est des personnalités, tout ce que tu as cité.
Et puis, c'est surtout des auteurs, compositeurs, interprètes. Ouais, ils font tout et des instrumentistes. Je pense que c'est ça. Donc, je me retrouvais pas mal chez eux, quoi.
Avant cette carrière musicale que l'on te connaît aujourd'hui, tu as été diplômé en licence en droit public, master management de la culture.
Ouais.
Et tu as bossé en label, à la télé, chez un tourneur. Est-ce que c'était pour découvrir un petit peu l'envers du décor ou tu devais prendre ton mal en patience, il fallait bosser et tant qu'à faire, autant bosser dans l'industrie qui nous passionne, quoi.
Un peu des deux, hein. C'était un peu des deux. Je pense que ce qui m'a motivée au départ, effectivement, c'était de me dire ça me met un pied dans la musique d'une façon ou d'une autre, mais je ne suis pas encore obligée d'annoncer à mes parents que je vais être chanteuse, quoi. Et en fait, c'est trop bien de faire partie de ces acteurs, de prendre soin des artistes, parce que normalement, on est censé avoir un amour de l'artiste quand même, un amour de la musique, si on est dans la musique, dans l'industrie de la musique. Donc moi, j'avais ça. Et j'aimais trop ce que les artistes proposaient, les compositeurs, les chanteurs, les chanteuses proposaient. Et j'avais envie de les soutenir dans ça. Donc dans des tournages, sur des tournées, la production de disques, le studio. Ouais, j'avais l'impression de contribuer un peu à l'effort collectif, quoi.
Après, quand on est passionné de musique et qu'on bosse dans l'industrie musicale, quand on rencontre nos idoles, en tout cas, ça peut parfois nous conforter dans nos choix, nos aspirations, nos inspirations, mais ça peut aussi nous décevoir. Est-ce que tu as eu des mauvaises expériences sans forcément citer de nom?
Je n'ai tellement pas cité de nom. Genre non, tu veux du scoop, mais il y a non.
Non, au contraire, justement, sans chercher le scoop, est-ce que justement tu t'es dit, ouais, je sais pourquoi je suis là-dedans et je veux faire ça, quoi?
Évidemment, je pense qu'on s'imagine des choses. Donc, quand on est confronté à la réalité, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. J'ai peut-être été déçu. J'ai pas un truc marquant qui m'a vraiment dégoûté, parce que sinon j'aurais arrêté, en fait. Peut-être, oui, déçu dans certains fonctionnements, dans certaines mentalités. Peut-être la place de la jeune femme aussi dans ces industries. Je pense que ça, c'est des choses qui m'ont un peu plus frappé. Et encore, je l'ai pas vécu de plein fouet moi directement. Et heureusement, je touche du bois. Mais je l'ai vu. Donc ça, je pense que c'est le côté déceptif du boulot. Et après, pour les rencontres artistiques qui m'ont rassurée, je pense que tu vois, quand tu croises M, quand tu vois Jane Birkin, quand tu vois...
Souchon,
je l'adore, Souchon. J'aime trop Souchon. Bah ouais, voilà. Bah lui, en l'occurrence, il y a cette anecdote où on passe une après-midi ensemble sur un tournage Et donc, on parle de tout et de rien. Il capte que je suis malgache, il capte que je chante. Et en gros, il me suggère un peu fortement de m'exprimer dans la langue de mes ancêtres. Et c'est quelque chose que j'avais pas forcément envisagé. Donc, quand t'as un artiste comme ça, avec ce type de carrière, qui a encore la fraîcheur et le recul de te pousser et de voir en toi ce que t'as, t'es même pas capable de voir toi, bon, voilà, c'est la magie de la musique, hein, tout simplement.
À propos de la langue malgache, ton premier projet s'appelle Mora Mora, qui signifie à la cool, tranquille, je crois. Mm-hmm. J'en crois ce que j'ai lu sur Internet.
C'est très bien.
Ce qui est un peu antinomique avec le milieu de la musique d'aujourd'hui où tout va très vite, mm-hmm. etc. Justement, est-ce que tu peux nous parler de ce premier projet ?
C'est un projet de groupe. Je pense que c'est à ce moment-là que je décide. J'ai une volonté de professionnaliser les choses. Et donc, une première expérience qui me permet de monter sur scène, de commencer à faire des festivals, de rentrer en studio de façon plus professionnelle aussi. J'étais pas encore dans l'optique. Il n'y avait de malgache que le nom, finalement, dans ce projet. Mais j'étais pas encore dans une optique d'exprimer réellement qui je... En fait, c'était transitoire, quoi. Et il faut en passer par là. Et je suis très fière de ce projet aussi. Je suis contente d'être allée au bout de ça. Il m'a permis, en tout cas, d'avoir confiance en moi et de pouvoir explorer d'autres choses.
Il a existé combien de temps, ce projet, en termes d'années ?
2 ans.
Vous avez fait pas mal de choses, quand même. J'ai vu
oui.
pas mal de...
Ouais. Mais j'aime bien faire j'aime bien faire beaucoup de choses, hein, tu l'as compris.
Ah ouais, hein, je suis pareil, donc je te comprends.
Voilà, on y va à fond.
Et vous le portiez plus ou moins à deux, si j'ai bien compris, ce projet. Du coup, quand on collabore, c'est une richesse, parce que bien sûr, l'autre apporte son bagage musical, son expérience, etc.
Ouais.
Et c'est aussi une contrainte, l'entonnoir se réduit un petit peu. Parallèlement à ce que tu fais maintenant, finalement, où c'est ton projet, tu as une liberté totale. C'est quoi le plus facile, le plus difficile? Comment tu arrives à jauger?
Bah, je crois que je préfère maintenant, parce que j'y suis, parce que c'est ma volonté, c'est un choix. J'ai adoré collaborer et j'aime toujours collaborer. Aujourd'hui, je le fais d'une autre manière, en fait. C'est le final cut, il est pour moi, il est chez moi, mais ça ne m'empêche pas de collaborer. Voilà, je travaille aujourd'hui avec Vito, qui produit, qui coproduit avec moi, Guillaume, des studios de Scope qui co-réalisent avec moi. Donc, j'ai quand même réussi à trouver des manières d'avoir du répondant, de faire des ping-pong un peu intellectuels et de réflexion. Mais c'est vrai que sur un groupe, on est vraiment dans une démocratie. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du compromis qui est très fort. Et j'étais arrivée à un moment où le compromis, pour le projet Joan Radao, c'était pas possible. Parce que c'était mon histoire que j'allais mettre en avant, que j'allais défendre. Et je pouvais pas le faire d'une autre manière que la manière que je voyais, moi, tu vois. Après, ça, c'est aussi son lot de difficultés parce que t'es seule. Et ça, je pense que c'était peut-être la chose la plus difficile à se retrouver face à face avec soi-même.
Pour finir sur le projet Mora Mora, j'adorais le nom de l'EP, The Healer. C'est
ouais,
très beau.
Ouais.
T'es question de notre rapport au temps face à la notion de guérison du corps et de l'esprit. Et j'ai lu que tu l'avais écrit après avoir eu un accident 3 ans auparavant. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce qu'il semble quand même assez fondateur de ce que tu fais en musique aujourd'hui.
Oui, c'est vrai. C'était une période assez compliquée pour moi. Maintenant, j'en parle plus facilement. Tu vois, donc ça me pose plus trop de problèmes qu'on me pose la question. Je trouve ça même important de montrer nos faiblesses, nos failles, et d'assumer qu'on a eu des difficultés, d'assumer qu'on a souffert. On parlait de souffrance tout à l'heure, d'assumer que j'ai été blessée, que j'ai mis du temps à guérir totalement. Donc oui, j'ai eu un accident assez grave. Bon, clairement, j'ai failli passer, quoi. Et très jeune, j'avais 25 piges. Et c'est pas un âge où on est censé être confronté à ces choses-là. Et puis en plus, en parallèle, je perdais des copains aussi. Donc, c'était très sombre comme moment. Et comme tu dis, très fondateur aussi, parce que quand tu sors de ça, quand tu sors la tête de l'eau, quand finalement ça passe, parce que ça passe, c'est con, hein, mais on est renforcé, on a une autre prise de vue de notre existence, de notre rapport au temps, tu disais ça tout à l'heure, notre rapport à l'amour, de notre rapport aux gens. En rééducation, je ne sentais plus mes dents, je ne sentais plus ma bouche. Déjà, se nourrir, c'était compliqué. Et chanter, c'était presque impossible. Et petit à petit, je retrouve, je récupère mes capacités à 100%. Et en fait, en récupérant mes capacités, je me découvre une voix. Je chante différemment. Alors, est-ce que je chante différemment parce qu'en moi, il y a eu des bouleversements émotionnels? Oui. Mais je pense que même physiquement, c'est passé un truc comme un... En fait, quand tu perds les sens... Et que tu les retrouves, je sais pas, il y a un truc de... Alors, on y va encore plus, quoi.
C'est fou, et tu le sauras peut-être jamais, ça.
Non. Non, mais du coup, par contre, je surfe dessus à fond, quoi. Enfin, ouais, c'est comme un super pouvoir.
En tout cas, ce que je trouve intéressant dans l'EP Moramora, c'est vraiment que ce passage de l'état de douleur physique et psychologique, cet état de résilience, on le sent vraiment.
Merci.
Et c'est vrai que c'est cool. Presque galvaudé de dire ça. Enfin, beaucoup d'artistes le disent. En tout cas, la musique, c'est un peu une thérapie, mais toi, pour le coup, c'est à 100% vrai, quoi.
Ouais, même si j'ai une très bonne thérapeute à côté. Hein. Ça n'empêche pas. Ben non, jamais. Non, ça me sauve, j'adore. Et ça me fascine, moi, la santé mentale, c'est vraiment un sujet méga important. On ne peut pas être artiste si on n'affronte pas ce qu'on est, ce qu'on vit et nos émotions. Au moment de The Healer, je suis en vrac, quoi. Bah, j'assume, c'est comme ça, c'est ce que j'ai à dire.
Est-ce que ça t'a permis d'exprimer des choses que tu n'étais pas capable de verbaliser ?
Oui, mais je pense que la musique, ça a toujours été un moyen de... Mes petites, c'était compliqué. Hein. Tout était trop fort, trop... C'était quelque chose qu'on me reprochait à souvent, tu vois, d'être trop sensible, trop fragile, trop... Et donc, quand t'es comme ça et que tout est multiplié par 100, la musique, ça m'aidait vraiment à identifier ce que je ressentais, en fait. Je comprenais pas ce que je ressentais. J'ai mis du temps, en tout cas. Donc, oui. Et puis même là, quand je deviens adulte, je commence à monter des projets, c'est pareil. J'ai eu des difficultés à m'exprimer avec mon entourage et il y avait des messages que j'avais pas donnés. Je passais par la musique.
Dans ce que tu décris, la musique, elle a vraiment un rôle d'exutoire. Si elle n'avait pas été là, après les épreuves que tu as traversées, est-ce que tu penses que ton destin, dit un peu vulgairement, aurait été différent ? Est-ce que les chemins que tu as pris auraient été différents ?
Certainement. Certainement. Après, on ne saura jamais. Hein. Je pense vraiment que ce qui m'a sauvée, c'est d'avoir une bonne thérapeute. Plus que la musique. Et la musique, c'est une passion, c'est un amour. Ça a toujours été là. Tu vois, je mange, je bois, je fais de la musique. C'est comme ça. Enfin... Donc, non, vraiment, je pense que c'est ma thérapeute qui m'a sauvée.
On parlait de l'entourage, ô combien important, surtout dans le milieu artistique.
Ouais.
Et tu as monté un label avec ta sœur. En plus, tu l'as monté il y a quelques temps maintenant.
Ouais.
Je voulais savoir voilà, comment on le monte, pourquoi, vraiment une question de néophyte.
Tu l'expliquais tout à l'heure, j'ai un parcours aussi dans la prod, dans la prod musicale. Et ma sœur aussi, en fait. On a toutes les deux fait nos expériences dans l'industrie musicale, à des postes différents, dans des structures différentes. Et en fait, nos expériences combinées, on s'est rendu compte que nous aussi, on avait suffisamment de connaissances, du moins, pour entamer la création d'une entité, quoi. Donc, Chapeau né comme ça, et né d'une volonté d'être autonome, de s'autoproduire, notamment moi, mes projets, parce que ma sœur est musicienne, mais elle n'en fait pas un métier. Voilà, bon. Ne me demandez pas pourquoi j'ai tenté 1000 fois de la convaincre, je ne voulais pas. Oui, c'était une volonté de faire tout par nous-mêmes parce que j'aime bien toucher à tout, j'aime bien maîtriser aussi. C'est vrai, il y a un côté un peu j'aime bien maîtriser, mais parce que finalement un projet, et là je te parle de projet, c'est du 360, c'est de A à Z, c'est ton mix, ton image, ton écriture, ton interprétation, les musiciens, les musiciennes avec toi, les ingé-sons, les ingénieurs sont avec toi. Les réals, voilà. Donc, si je pouvais avoir le dernier mot sur tout ça, ça m'allait très bien parce que je m'approchais précisément de ce que j'avais en tête. En fait, c'est ça. L'objectif, c'était de m'approcher de ce que j'avais en tête.
Et ta sœur, c'est aussi ta manageuse, elle bosse avec toi. Est-ce que c'est une manière aussi de contrôler en famille, au-delà de la confiance que tu as pour elle, bien sûr, de pouvoir tout dire
Là, c'est vraiment une histoire de confiance. Vraiment de confiance. J'ai pleine confiance en elle. Je l'admire beaucoup, ma sœur. Beaucoup, beaucoup. Je trouve que c'est la meilleure. Je pense que c'est la meilleure. J'ai de la chance. Et c'est vraiment une histoire de confiance. Je peux pas bosser avec des gens avec qui je peux pas être moi-même. Je peux pas.
Et ce label Chapeau, écrit comme le chapeau d'un article de presse.
Ah, tu l'as, oui.
Ah ouais, j'ai fait 5 ans de journalisme. Entre le titre et le corps de l'article, voilà, qui donne l'essentiel de l'information, qui est censé interpeller le lecteur. Pourquoi ce choix ? Ça m'a fait marrer.
Bah c'est exactement ça, hein, la définition, tu l'as donnée. Puis en fait, on était en études à Lille et parfois, quand on en avait un peu ras-le-bol, il y avait une expression qui disait « Wow, chapeau !» Genre, ça voulait dire « Ok, on va au but, droit au but, et puis ciao !» quoi. Et donc, ça nous a fait rire d'appeler notre label comme ça. Ouais.
Et pour montrer ta confiance et le fait de collaborer avec des proches, je crois que c'est le clip de Gold Paint
qui
a été filmé dans ton jardin et dans le parc des Sceaux.
C'est ça, le jardin de mes parents, exact, avec mes meilleurs potes.
Et filmé par une de tes potes.
Ouais, c'est ma meilleure pote, Nouma. Ouais.
C'est des lieux qui ont forcément contribué à ta construction. Est-ce que, voilà, après avoir bossé avec des gens de ton entourage, par aspect pratique, je pense aussi au début,
totalement.
Est-ce que c'est difficile de déléguer à des gens qu'on connaît moins par la suite, quand vraiment on rentre dans une phase de professionnalisation ?
Je pense que parfois il y a des erreurs de casting, effectivement. c'est pas difficile parce que quand on est dans une phase de professionnalisation, a priori, la personne sait ce qu'elle fait en face. Hein. Elle est capée pour ça. Donc ça, c'est hyper agréable parce que il y a moins d'incertitude sur cet aspect-là. Après, le truc de la confiance ou je fonctionne au feeling, tu vois. Donc, si je la sens pas, la personne, j'y vais plus. Avant, j'y allais, j'y vais plus.
Bon, la question la plus importante, je pense, ton jeune parcours. Comment s'est fait la transition entre Mora Mora et Joan Radao? Vraiment, ton projet musical, tu l'incarnes, il porte ton nom. Ouais. Maintenant, on voit que toi partout, c'est tes choix. Tu le disais, un contrôle en 360, tous les choix et le final cut, c'est toi. Comment ça s'est fait?
Confinement. Confinement qui stoppe toute activité et qui m'oblige à me demander si je veux continuer en tant qu'artiste, parce que c'est dur, c'est pas évident. Puis surtout, confinement, on a vu ce qui s'est passé pour l'industrie musicale. On n'était pas la prio, clairement. Et voilà, monde à l'arrêt, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, est-ce que je retourne à la prod? Est-ce que je me lance dans une carrière autre encore? Qu'est-ce que j'ai à dire, en fait? Est-ce que j'ai encore des choses à dire via la musique? Parce que peut-être que non. Je me suis posé toutes ces questions et la réponse, elle s'est faite par l'écriture de chansons. Et donc, bah là, je me suis dit, oh, bon, il y a encore deux, trois trucs à dire. Ok, on peut y aller. Et en fait, c'était tellement intime et personnel, encore plus que sur les projets d'avant, que tout était logique. Joan Radao, c'est venu direct. Cette volonté de parler de ma double culture, bah, c'était le thème, les items qui popaient dans mon cerveau pendant l'écriture. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais suffisamment de bagages et de confiance en moi et de compréhension de moi-même pour me lancer dans un truc absolu où je vais vraiment faire la musique que j'aime, que j'ai envie de faire, que j'ai envie d'entendre, et je vais être l'artiste que j'ai envie de voir.
C'est peut-être pas plus mal au final d'avoir eu ce petit projet Mora Mora avant. Ça a permis un peu de centraliser.
Toute expérience est bonne. Hein. Tu vois, mes passages en prod, c'était aussi cool de l'avoir fait. Il y en a qui disent ah ouais, les carrières, elles sont courtes. Chez les jeunes femmes, encore plus. Il faut y aller très tôt. Et puis, faut pas perdre de temps parce qu'après, t'as une date de péremption. J'y crois pas.
Il y a plein de contre-exemples, en tout cas, dernièrement.
Dieu merci.
Juliette Armanet.
Bon, que j'adore. Clair. Je suis très très fan de Juliette, si tu m'entends. Et voilà, mais merci. Et justement, heureusement qu'il y a Juliette qui montre justement ses parcours et je m'identifie énormément à elle parce qu'elle aussi a un background qui est conséquent avec des expériences sublimes avant et voilà, et maintenant aujourd'hui une carrière magnifique dans la musique. Et je pense qu'elle comme moi, on est aussi passé, oui, par des projets avant. Et c'est pas plus mal, comme tu dis, c'est transitoire.
Ta double culture, donc elle est plus jamais que présente dans ce nouveau projet, surtout au niveau des sonorités. Alors que Mora Mora était un peu plus pop-folk, pour dire un peu grossièrement, même s'il y avait un peu d'électro. Là, vraiment, c'est un vrai métissage. Musique traditionnelle, afrobeat, électro. Est-ce que tu peux nous en parler?
Je suis d'accord avec ce que tu dis. J'avais trop longtemps l'impression d'être dans un travestissement musical. La folk, c'est vraiment un style que j'adore et je pense qu'un jour je finirai par faire un vrai album folk pur et dur dans un classique, quoi, dans les règles classiques, je veux dire. Ouais, Joan Radao, c'est vraiment l'affirmation de soi et de dire que j'ai le droit d'exister tel que je suis et je suis comme ça. Je suis ni française ni malgache et les deux à la fois. Parfois je suis plus française, parfois je suis plus malgache, ça dépend qui j'ai en face de moi, ça dépend où je me trouve sur la planète. C'était trop important. J'avais jamais entendu ça, en fait. J'en ai rencontré deux, trois personnes métisses, deux, trois personnes avec la double culture comme moi. Mais j'avais jamais vu d'artiste, en fait, qui en parlait. Fallait être soit l'un, soit l'autre. J'avais pas du tout envie de choisir, parce que c'était pas du tout moi. Donc, ouais.
Ben moi, je te cache pas que si t'es là aussi devant moi aujourd'hui, c'est pour ça, c'est ce que j'aime dans ton projet, c'est que ce que tu fais, ben, j'ai pas l'impression de l'avoir entendu ailleurs, en fait.
Ah, ben ça me rassure.
Et c'est ce que j'apprécie le plus dans la musique, vraiment.
Ouais. Moi aussi, j'adore.
Il y a de très bonnes chansons, mais t'as l'impression de l'avoir entendu mille fois, qui sont un peu...
Je déteste ça.
Aussi bien soit-elle, ça a tellement été fait que ça devient banal, quoi.
Pour moi, c'est ça. C'est mon sens. Alors, je dis je déteste ça, moi. Je vais tirer les foudres de je sais pas qui encore en disant ça.
Pour ton projet, en tout cas.
Oui, voilà, pour moi. Appliqué à moi, je déteste ça. Je déteste faire deux fois la même chose. D'ailleurs, parfois, j'ai des difficultés en live parce qu'il faut tenir quand même une trame, par exemple, de... Les gens attendent la mélodie, en fait. Donc, si tu commences à la changer et faire des impros dessus et qu'on ne reconnaît plus l'air, c'est perturbant. Donc ça, déjà, je me concentre un peu dessus pour le faire. Mais je déteste reproduire, je déteste copier. La duplication, je n'aime pas ça. J'essaye de ne pas le faire. Alors, Évidemment, j'ai des inspirations, évidemment, j'ai des influences, mais ça reste à l'état d'inspiration et d'influence. Et si je peux avoir mon propre son, mais alors là, je suis la plus heureuse de la Terre.
On voit cette singularité chez toi, tu as vraiment une identité assez forte. Enfin, je pense que si on voit 10 artistes, tu vas dénoter, quoi. Justement, comment on travaille ça? Parce que d'un côté, il y a toi, il y a ta double culture, ton bagage, tes expériences qui font que forcément, tu es un petit peu à part. Mais aussi, il y a certains artistes, il faut le dire, pour se démarquer, surtout en termes de marketing, d'image, etc., ils se travestissent vraiment, quoi. Comment on puise entre ce qui est vraiment au fond de nous et le petit côté original, peut-être un petit peu artificiel, pour dénoter?
Vraiment, je pense que la réponse, c'est que je mens pas, hein. Clairement. Hein. Et vraiment, les vêtements que je porte, c'est les vêtements que je kiffe. Les couleurs que je kiffe, je fais ce que je kiffe. Et parfois, ça fait peur, hein, parce que au moment où personne n'avait écouté le projet, j'ai eu une prise de conscience. Juste avant que ça sorte, je me dis, putain, en fait, ça se trouve, je suis la seule personne sur Terre qui est en train de kiffer ça, quoi. Mais je vais sortir le truc, on va dropper, et là, on va me dire, mais t'es une grande malade, c'est très, très nul. J'avais trop peur. Je me suis dit, putain, en fait, je suis allée au bout de mon délire, ça, c'est cool. Mais après, là, vraiment, la réception, je sais pas. Donc, pour revenir à ta question, comment on fait pour éviter l'écueil de l'artificiel? Moi, en fait, je sais pas faire semblant. Je m'entoure de gens qui font pas semblant et des gens qui ont été peut-être artificiels dans ma vie, qui ont été de passage, ils ont vite jarté, concrètement. Non, c'est pas possible.
T'as parlé de l'entourage, justement, quand t'as parlé de Vito, de Guillaume, quand ouais. Tu leur as parlé de ton projet, comment ça s'est passé, comment ils t'ont aidé à travailler. Je sais que Guillaume, il aime bien challenger aussi.
Ouais. Et Guillaume, c'est lui qui est venu me chercher. Donc ça, c'est encore plus ouf parce que quand on connaît son parcours, voilà, j'ai la chance d'avoir été repéré par une personne comme ça. Et je dis une personne en plus parce que au-delà de l'aspect professionnel, humainement, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc c'est lui, en fait, qui est venu me voir et qui m'a dit, écoute, moi, je sais que je peux faire un truc avec toi. La question, c'est est-ce que toi... tu serais prête à le faire, quoi. Est-ce que toi, ça, tu le sens? Donc, on discute, on prend des cafés, je lui explique un peu ma vision, ce que je pense faire avec Joan Radao, et en fait, ça connecte direct, c'est hyper, hyper simple. Et Vito, c'est moi qui suis allée le chercher, on me l'avait recommandé, et en fait, coup de cœur, pareil, humain et professionnel, il comprend, il réfléchit vite, c'est un musicien hors pair, j'ai rarement rencontré un musicien aussi fort. Et puis, il a une sensibilité exceptionnelle. C'est un être humain, il est incroyable, tout comme Guillaume. Et voilà, donc ces deux-là, c'est un peu des bénédictions dans mon parcours. Ouais.
Le premier single du projet Joan Radao, c'est Diego Suarez. Donc là, complètement, on a ce sentiment paradoxal de naviguer entre les deux cultures.
Ouais.
C'était important pour toi d'ouvrir sur ce sujet-là?
Ouais, total. Bah, ça dit tout. Tu vois, chapeau, on y va. Hop, de quoi on parle? On parle du cul entre deux chaises. C'est ça.
Bah, je vous invite vraiment à écouter ce titre en plus, et il a plutôt bien marché. Hein.
Ouais, ça va, c'est cool. Ouais, je suis toujours un peu étonnée des choses positives qui m'arrivent parfois. Diego, c'était important aussi parce que c'est une ville magnifique. C'est une ville portuaire au nord de Madagascar dans laquelle je suis allée plusieurs fois. Et elle a une histoire particulière aussi, en fait. C'est le rapport entre l'Occident et l'île qu'incarne ce port, en fait, tu vois. Mais comme tous les ports, hein, on prend La Rochelle, je pense que tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est des lieux de passage. Et je trouvais que c'était une belle image.
En plus, tu parlais d'incarnation, le fait que ça s'appelle Diego Suarez. Moi, naïvement, je croyais que c'était une personne au début.
Mais c'est une personne.
Ça le personnifie, ouais.
Mais oui, mais c'est une personne, en fait. Il se trouve que Diego Suarez, c'était un navigateur portugais. Il y en a qui disent, c'est lui qui a découvert l'île. En fait, l'île existait déjà et la population était déjà là. Donc, concrètement, il est juste arrivé, il a posé ses petites valises et il s'est dit, bon, bah...
Comme Christophe Colomb.
Voilà. Hein. Donc, c'est important pour moi de remettre un peu aussi l'histoire dans un contexte réel et objectif. Après, c'est pas le seul à avoir fait ça sur l'île, à être arrivé comme ça. Mais donc, il a donné son nom à Diego Suarez, qui s'appelle aujourd'hui Antirana. Ils ont redonné le nom originel depuis quelques années, là. Voilà. Et donc Diego Suarez, bah oui, j'aimais bien l'ambiguïté aussi avec cette consonance portugaise. Il y avait un truc un peu mystérieux, ça, tu vois, ça pose des questions finalement.
Et de bois et de fumée, c'est un peu la résultante de ce questionnement, c'est vraiment l'acceptation.
Ouais, exactement.
Important ce morceau aussi.
Oui, parce que c'est la première fois que j'enregistre en français. Et c'est, je crois, la première chanson que j'écris en français que j'ose sortir. Ouais.
Parce que dans tes rêves que tu citais tout à l'heure, il y avait beaucoup d'anglophones.
Oui.
Le français, c'est quoi? Bon, forcément de la pudeur, j'imagine.
Oui, totalement.
Puis en français, les artistes, soit c'est... pas se mentir, un peu de la soupe dans les mots, en tout cas. Mm-hmm. Soit, voilà.
C'est Gainsbourg. Ouais. Et en fait, je suis une fan inconditionnelle de Gainsbourg. Donc jusqu'ici, je me sentais vraiment pas legit, hein, passer derrière, clairement pas. Mais c'est vrai que dernièrement, on a quand même aussi vu un essor dans la variété et dans la pop. Je pense notamment pour la pop et pour la pop alternative, pour l'indé, je pense à Isult. J'aime beaucoup ses textes. Je pense aussi à Juliette Armanet, hein, parce que c'est pareil, j'aime son écriture. Mais voilà, c'est des écritures musicales, en fait. Et moi, ça me manquait, ça. Jusqu'ici, j'avais l'impression de voir, pour moi, hein, encore une fois, je vais parler que pour moi, j'avais l'impression d'avoir un vide entre des Brel, des Gainsbourg et aujourd'hui. J'avais pas de référence, quoi. Et donc, ces filles-là sont arrivées avec leur écriture musicale. Et là, je me suis dit, OK, on peut faire ça avec du français, en fait. On peut carrément... Elles ont poussé des petites frontières, tu vois. Je me dis, OK. Et puis en plus, je suis une très, très grande fan aussi de Michel Berger. Voilà, oui, peut-être, voilà, on s'arrête aux années 80 pour moi. Du fresh air comme ça, ça m'a rassuré. Et là, je me suis dit, OK, tu peux y aller aussi finalement.
Et chaque langue a sa force mélodique, son rythme.
Ouais.
Parfois, il y a des évidences dans les mots. D'autres fois, il doit y avoir un petit casse-tête sur le choix de la langue, non?
Même parfois, j'ai du mal à parler parce que je suis emmêlée dans mon cerveau entre le malgache, l'anglais et le français. Donc, c'est un peu la honte.
Ouais, tu parles les trois langues couramment?
Certaines plus couramment que d'autres, hein, clairement. Mais c'est du jonglage, mais c'est trop bien. En fait, ça t'ouvre un... Finalement, il y a quatre langues. Il y a la musique, il y a le français, il y a le malgache et l'anglais. Tu vois, c'est trop riche, c'est trop stylé, en fait, quand tu peux jouer comme ça sur plein de fuseaux horaires. C'est trop bien.
Donc cette réconciliation entre les deux cultures, maintenant ça paraît évident, en 2024 en tout cas, on voit ce que fait Gaël Faye, etc.
Ouais, j'adore Gaël, oui.
Enfin, que ce soit dans ses bouquins, dans la musique, c'est inspirant vraiment des artistes comme ça, et t'as envie de prendre un peu le flambeau.
Totalement, totalement. Je me revendique de cette école-là, à fond. Gaël Faye, je trouve que c'est incroyable ce qu'il fait, je trouve qu'en plus il est très engagé au Rwanda. J'ai eu l'occasion d'y aller, en plus, moi, au Rwanda. Donc, et puis, voilà, il fait un travail aussi d'histoire, de mémoire, qui est méga important. Et je le dis souvent, et d'ailleurs, je l'ai dit dans une interview sur le média Pickles, justement, j'explique que je ne pensais pas être autant engagée sur ces causes-là, jusqu'à ce que je fasse Joan Radao et jusqu'à ce que je m'exprime et que, voilà, on se retrouve, toi et moi, face à face. Et je me rends compte que c'est important pour moi de remettre l'histoire dans un contexte, de ne pas oublier. On a trop tendance à oublier en tant qu'être humain. Le rôle de l'artiste aussi. Quelle est notre responsabilité dans tout ça? Et je trouve que Gaël Faye, il est brillant et c'est... Ouais. Il est trop fort. Il est trop bien.
Fatoumata Diawara, on lit un petit peu des choses sur Internet. Sur toi, elle revient souvent. Tu as fait des scènes avec elle, je crois.
Ouais, première partie.
Puis aussi très engagée.
Je l'adore. J'ai pu faire sa première partie l'année dernière, en coulisses, avant qu'elle monte sur scène, elle, pour faire son show, son heure de concert. J'avais espéré un petit moment avec elle. C'était la première fois que je la voyais. Et donc, évidemment, femme incroyable, très impressionnante. Très, très impressionnante. Une aura incroyable. Et elle me parle et elle me dit « Ok, j'ai écouté ce que tu as fait. C'est très, très cool. T'as une super voix et les mélodies sont dingos. » Déjà, là, j'étais en train de fondre à l'intérieur de moi-même. J'ai essayé de garder une contenance, mais ça n'allait plus. Et ensuite, elle me dit, mais tu sais, toi et moi, on est des survivantes. Elle m'a tuée sur place, quoi. Ouais. Elle m'a dit, on a intérêt à exister parce qu'il faut, c'est important, là. Donc, il faut que tu continues et toi et moi, vraiment, on est là, quoi.
Ça rentre un petit peu plus dans le mainstream, ces sonorités qu'on qualifiait avant de world music.
Ouais.
D'ailleurs, ce terme, je trouve qu'il... Avant, c'était clairement pour définir un peu vulgairement ce qui se passe en Afrique et les sonorités caribéennes. Mais maintenant, avec Internet, on est influencé partout. Ouais. Le métissage, il est normal, entre guillemets. Enfin, il est naturel. Qu'est-ce que tu en penses de ce terme? Est-ce qu'il n'est pas un peu ethnocentré
Oui, il est un peu désuet. Ouais. Mais je pense qu'il n'a plus de sens. Maintenant, ici, on aime bien... labelliser, catégoriser, ça permet aussi de se repérer. En vérité, tu vois, c'est marrant parce que j'ai fait mon mémoire sur les black music. Et justement, cette idée de musique noire, est-ce que ça avait encore du sens ou pas? Quelle était l'utilité de cette terminologie-là? Est-ce qu'il y avait une expérience noire, finalement, qui justifiait ça? Bon, la réponse est oui, hein. Et donc, je pense que la world music, il y en a qui détestent ce mot, il y en a qui l'adorent. En fait, je m'en tape. Je me dis juste que s'il faut des mots pour qu'on existe, existons avec ces mots-là. Et puis, de toute façon, écoutez la musique, vous verrez bien ce qui se passe, quoi.
Ouais, tu te formalises pas dessus, quoi.
Non, ça va. Il y a d'autres guerres à mener, je crois.
Tu parlais d'engagement, il y a celui aussi de ce qui se passe sur la planète,
ouais.
En termes d'écologie,
ouais.
Cities Are Burning,
ouais.
Qui a un écho particulier forcément pour nous, qu'on a filmé ensemble, on peut le dire. Bah, j'adore ce titre et
merci.
Je voulais savoir comment ça t'était venu, parce que je crois que t'es tombé sur le sujet malgré toi. Ça a été naturel de parler de ça.
Ouais, parce que, alors, pour la petite anecdote, c'était pendant le confinement et je suis tombée sur une image satellite des foyers, des naissances de feu, des départs de feu sur la planète. Donc voilà, tu avais une vue satellite avec vraiment des points lumineux. Et c'était pas des points lumineux de la Tour Eiffel ou je sais pas quoi, tu vois. C'était des feux, des départs de feu. Et c'était très, très jaune, hein. Finalement, la planète était jaune. Et ça m'a choqué, enfin, ces images, tu vois, il faut des images comme ça fortes pour comprendre. Et là, du coup, c'est une vue, comment dire, macro, quoi. On peut pas être plus large. Et ça m'a choqué. Et comme ça m'a choqué, et que souvent, quand je suis choquée, j'en fais une chanson, hein, tout simplement. Et aussi, il y a ce truc, je te parlais de ma mère qui travaillait chez l'UNICEF. J'adore la nouvelle génération, j'adore les générations après nous, j'adore les enfants. J'aime tout. Ça fait bizarre de dire ça, putain. Mais j'aime les enfants, réellement, j'aime les enfants parce que je les envie, en fait. Ils ont ce regard tout nouveau sur le monde entier, sur l'existence. Ils ont cette fraîcheur qu'on perd, nous, parfois. Et j'espère, en tant qu'artiste, qu'on essaye de conserver. Et ils m'impressionnent. Et en fait, j'ai envie qu'il y ait encore des enfants. J'ai envie qu'il y ait des générations encore qui se perpétuent et qui sont positives et permettent que la planète soit encore vivable et agréable. Et c'est peut-être utopique, hein, de dire ça comme ça, et peut-être un peu démago, j'en sais rien, mais c'est vraiment ce que je pense. Et donc, Cities Are Burning, ça parle de ça, ça parle de l'héritage. Qu'est-ce qu'on laisse ?
En tout cas, je suis d'accord avec toi, la nouvelle génération, elle est vraiment déter.
Mais j'adore.
C'est celle qui va sauver le monde.
Mais oui.
Et j'en parlais avec le groupe Polo et Pan, et Alex du groupe m'a fourni une explication, c'est que nous, on est la génération où tout allait bien, entre guillemets, dans le monde. Enfin, du moins, on le voyait pas de manière aussi présente dans le quotidien, les téléphones n'existaient pas, tout était un peu planqué, les réseaux sociaux n'existaient pas. Et avant le 11 septembre, finalement, voilà, on était un peu dans un cocon, quoi. Et là, la génération Covid.
Elle l'a bien mangé. Hein.
Ouais, c'est
ouais, c'est sûr, je pense qu'on n'a pas la même. On n'a pas le même vécu. Je crois que nos difficultés à nous, elles étaient autres aussi. Hein. Il y a quand même, on parlait de santé mentale, justement. Je pense que c'est peut-être que la génération d'aujourd'hui, la génération d'après, elle est peut-être encore plus sensible à ça. Mais nous, en tout cas, c'est sûr qu'il y avait des chapes de plomb un peu partout, sur plein de sujets, et que là, ça se libère. Et c'est jouissif de voir que ça se libère.
Je te verrais bien faire une petite conférence à Solidays.
Vas-y, invite-moi, hein, si t'as les entrées, je suis là. Hein.
Je voulais te parler aussi du live, forcément. Ben, c'est la deuxième raison pour laquelle aussi tu es devant moi aujourd'hui. C'est que déjà, musicalement, et c'est pas péjoratif, je n'avais jamais rien entendu de semblable.
C'est le plus beau compliment que tu puisses me faire, hein, tu sais, genre dans l'âge.
Et surtout, plus important, quand on a fait cette session de Cities Are Burning, quand tu chantes, t'es habité. Et ça, je le vois pas souvent, même chez des artistes confirmés. Et je voulais savoir ce qui se passait quand vraiment tu te produisais dans un cadre un peu confidentiel comme cabine de studio, mais aussi sur scène.
Sur scène, c'est cool parce que t'es galvanisé, en fait. Il y a ce truc, ce rapport au public, déjà. Où est-ce que tu peux vivre ça dans une vie quotidienne ? Jamais. C'est exceptionnel comme configuration. Et moi, j'ai connu la scène assez tôt, avec le conservatoire. Donc, c'est quelque chose de, encore une fois, très naturel chez moi de faire le spectacle. Et en plus, ma mère, pendant les fêtes de famille, elle me mettait sur la table, elle me faisait danser, quoi. Donc,
le trauma.
Allez, c'est l'heure du spectacle. Johan, c'est quoi tes nouveaux morceaux aujourd'hui ? Déjà, je crois qu'encore une fois, mes références et mes influences, elles sont comme ça. Quand tu regardes Laurie Neal sur scène ou en studio ou whatever, enfin voilà. Amy Winehouse, pareil, ça me touche. En fait, ça me touche ces gens qui se mettent à poil, qui vont au tréfonds de leur âme et qui plongent sans... Tu vois, Jeff Buckley, voilà, ça tutoie les anges, ça, le ciel, on est... Et c'est ce que je recherche. Donc, je prétends pas y arriver, j'en sais rien, mais c'est ce que j'essaie d'approcher, ouais.
Et le projet Joan Radao, on le voit sur scène, ce sourire, il y a quelque chose de très solaire, de très dansant, etc. Mais quand je vois ce côté habité, je trouve qu'il y a quelque chose de Kurt Cobain, quoi, genre une sorte de... Peut-être pas de colère, mais de rage. On sent qu'il y a un truc à l'intérieur de toi. Je voulais savoir si c'était le cas.
Ouais. Je pense que Joan Radao explore aussi... on est toujours sur une dualité, finalement, et des paradoxes. Et Joan Radao, c'est ça. Mais parce que c'est ce que je suis. Et il y a cette dualité-là, effectivement, entre la sensibilité, la douceur, le côté rayonnant, flamboyant, que j'adore. Et il y a aussi cette part un peu plus sombre et un peu plus triste, un peu plus fragile, un peu plus en colère, ouais, à fond.
Et surtout, il faut te découvrir sur scène parce que les chansons sont vraiment différentes de leur version studio, où il y a plus de prod, etc. Là, tu as une config en trio avec un guitariste et un batteur. Pourquoi ce choix, tout simplement? Qu'est-ce que tu aimes dans ce côté organique, finalement?
Le côté organique, c'est que déjà, j'ai des partenaires de jeu exceptionnels. Je pense à Paul et Kevin. J'ai un ingénieur du son aussi, Simon, qui m'accompagne. C'est vraiment une équipe. Et grâce à eux, on rend vivant quelque chose qui est figé avec du studio. Et on est dans l'interprétation totale. Alors, pourquoi une batterie? Parce que j'aurais voulu être, moi, presque... Enfin, je crois que j'aurais voulu faire de la batterie plutôt que du piano plus jeune, mais c'était pas possible au conservatoire. Donc, j'ai un amour pour cet instrument percussif, rythmique, incommensurable. C'est pour ça que je prends vraiment du temps pour aussi sélectionner les musiciens et musiciennes qui viennent jouer avec moi. J'ai vraiment besoin de la frappe, notamment pour le batteur, de la frappe, de la sensibilité. Et pourquoi la guitare? Parce que Madagascar, ça se joue beaucoup à la guitare, en fait. C'est pareil, un instrument très présent là-bas, c'est un gros marqueur. Et je trouve que les deux marchent bien ensemble. On est avec la voix devant, on est sur un triptyque où j'aime bien la dynamique.
Et pour une date un peu exceptionnelle, c'est un peu triste pour les gens en province, mais c'est toujours un peu la date parisienne qui représente toujours un petit peu la plus grosse date d'une tournée. Voir des instruments traditionnels, ça pourrait arriver. En plus, tu as fait un petit short pour Noël.
Oui.
Avec une sorte de harpe.
Ouais, c'est une harpe tubulaire, ça s'appelle la valia. Et c'est un instrument malgache, vraiment 100% malgache, qui se rapproche un peu de la kora. Grave.
Kora qui était réservée aux femmes, je crois.
Oui, et aux griots, effectivement. Et bien là, la valia, en fait, écoute, c'est une très bonne question. Je ne suis pas sûre que ce soit réservé à un genre, mais parce que Madagascar, ce n'est pas un pays, c'est pas le pays le plus macho, tu vois. Au contraire, je pense qu'on est plus sur une société matriarcale, pour le coup. Donc la place de la femme est aussi très importante. Donc je crois qu'elles étaient autorisées à jouer de la valia. Simplement, il y a très peu de joueurs de valia, étonnamment. Ça commence un peu à disparaître. Et donc moi, j'ai eu de la chance d'avoir Radzir, qui est venu jouer sur mon premier EP, sur Feti, et qui m'a enseigné un peu comment... Voilà, il m'a donné 2-3 cours pour commencer un peu à tâter l'instrument. Et ouais, grave, j'aimerais trop, sur scène, évidemment, des guests comme ça,
tous les jours.
Ce serait royal, ouais.
Est-ce que comme pour la couronne, on appelle ça des maîtres, ceux qui t'apprennent?
Ouais, je pense qu'il y a ce rapport-là. Hein, c'est marrant parce que je suis allée voir les copains de Makoto-san, qui a un groupe, un projet techno voilà, au Bis Festival hier. Et eux aussi ont ce rapport-là avec le maître. C'est comme les Jedi, tu vois. Il faut toujours un petit, un petit Yoda qui t'aiguille. C'est normal, c'est la transmission, c'est comme ça. Et peut-être que je serai le Yoda de quelqu'un, on ne sait pas.
T'as parlé de prendre le temps pour choisir tes musiciens, mais je crois que tu prends le temps aussi dans ton projet. C'est pas la personne qui va pondre des trucs un peu tous les jours. Tu le réfléchis, mûris, mais après, quand c'est acté, quoi.
Ça part. Je suis diesel, hein. C'est comme ça que... Ouais. Ça, il faut du temps pour mettre en place les choses. J'ai un côté un peu cérébral qui me pousse un peu à faire comme ça. De toute façon, je me sens très oppressée quand je suis obligée de sortir quelque chose qui me ressemble pas. Je ferai tout pour le saboter ou pour pas le faire. Hein, et c'est pour ça que ma sœur est ma manager. C'est parce qu'elle comprend très bien cet aspect-là de ma personnalité artistique, ce besoin de temps avant d'exploser le truc, quoi. Et par contre, après, une fois que ça part, y a aucun souci.
Ça, c'est la question que je pose vraiment à tous les artistes, surtout musiciens que je reçois à mon micro. Quand tu crées une musique, un texte, quand tu es aux arrangements notamment, à quel moment tu arrives à être satisfaite à un instant T? Tu vois, moi, là, j'ai une guitare à côté, j'ai quelques pédales et je peux passer 8 heures à tourner les boutons pour avoir le son. Et toi, quand tu as toutes ces données à réfléchir, surtout que tu es la boss de ton projet, comment, voilà, tu sais le moment où il faut t'arrêter? Tu te dis, voilà, cette chanson, elle est très bien actuellement et quand je la réécouterai dans 10 ans, je penserai toujours la même chose. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui me fascine.
Ouais.
C'est l'apport de ces gens extérieurs, parce que toi, tu as le nez dans le guidon aussi, tu n'as peut-être pas le recul nécessaire. Comment ça se passe?
Ah ouais, il y a quand même pas mal de gens qui me disent stop, Joanne, il faut. Mais j'apprends à le faire par moi-même aussi. Et il y a des moments d'épiphanie aussi, où tu dis putain, ça c'est chambé. Alors parfois, quand tu l'éprouves avec d'autres personnes, il s'avère que c'est nul. Et puis parfois, c'est yes, c'est chambé. Par exemple, Diego, très vite, l'écriture de Diego, et très vite, je savais, c'est bon, j'avais la forme, j'avais le discours, elle roulait toute seule, elle était déjà autonome, la chanson. Et ça n'a pas loupé, c'est celle qui parle le plus aussi. Je pense que c'est un truc d'instinct. Il faut être attentif à son instinct. C'est très difficile de satisfaire un artiste de toute façon. Et je pense que je ne le serai jamais complètement. Mais vraiment, j'apprends à apprécier quand même les choses parce que ça passe trop vite et c'est tellement triste de vivre une existence d'insatisfaite. Je n'ai pas envie.
Là, on est en 2024, en janvier. Il y a eu déjà des dates de concerts.
Oui.
C'est quoi les prochaines échéances pour toi, que ce soit à court terme, moyen terme, long terme? Qu'est-ce qui va se passer pour le projet Joanne Radao?
Qu'est-ce qui va se passer? Il y a d'abord le chantier des Franco. J'ai la chance de faire partie des sélectionnés de la promotion de cette année. Donc ça, c'est génial. À partir du 25 mars, je suis à La Rochelle. Il y a un concert le 29 mars là-bas. Et puis, vous me retrouverez aussi au Franco Folie, au festival en juillet. D'ici là, il y a une date parisienne en printemps qui est en train de se préparer. Voilà, tu as la petite exclue. Et là, je vais dropper aussi. J'ai pas mal de collabs qui sont dans le pipe. Donc, il y a de la musique qui va sortir cette année. Et je suis en train de préparer mon premier album aussi, en toile de fond.
Ouais, parce que tu as récolté les fonds il n'y a pas si longtemps.
Yes.
Et j'avais noté une petite phrase. C'est un album qui me permettra d'offrir une gamme plus large de ma production musicale sans concession ni sacrifice.
Ouais.
Ce serait le pire pour un musicien de ne pas aller au bout de son idée, non?
Mais surtout pour un album. Enfin, j'en ai jamais fait, tu vois. Alors là, ce premier album, il faut vraiment qu'on aille au bout de ce que je suis. Enfin, c'est l'objectif et l'ambition. Ah ouais, non. Non, mais c'est bien pour ça qu'on fait appel. C'est pour ça que Chapeau est là. C'est pour ça que je m'entoure de cette façon. C'est toute mon équipe est dans sa pleine compréhension de plus je suis libre, mieux c'est pour tout le monde, en fait. Et mais pour tout le monde, dans le sens comme auditeur, comme public de concert. C'est ça qu'on défend, c'est ça Joanne Radao, hein. C'est pas autre chose que ça. Donc vous ne me verrez pas faire des trucs pour ressembler à le premier pélos du coin de la rue. Hein. Non.
Et tout en restant un peu flou, sans trop nous en dire, et t'as dit que t'aimais pas faire deux fois la même chose, est-ce que ça va être la continuité de l'EP? Est-ce qu'on va y retrouver des sonorités qu'on a vues dans Fetty? Est-ce que tu pars sur autre chose? Est-ce qu'en tout cas, t'as en tête ce vers quoi va se destiner l'album?
Oui. Ça, oui, c'est déjà très dessiné. Et pour répondre à ta question, je pense que Fetty, c'était un centième de ce que je suis capable de faire. Et l'album va pouvoir aller un peu plus loin. C'est une continuité parce que c'est le même projet. Ça, c'est quand même sous Joanne Radao. Je pense que Fetty était l'introduction. Et là, on va rentrer sur le plan principal.
Bon, Joanne, pour terminer cet entretien, quelques petites questions rafales pour te connaître sous un prisme différent.
Allez.
Je voulais savoir, tout simplement, si tu avais une reco musicale pour moi.
Alors, attends, hop, j'ai le droit de tricher et de regarder sur mon Spotify. Elle s'appelle Lucy Rose. Et là, elle vient de sortir, je ne sais pas si elle vient de le sortir, mais en tout cas, je suis tombée dessus, moi. C'est récent. Ça s'appelle Could You Help Me? Et en fait, t'as un pattern de piano à la Francesco Tristiano. C'est trop bien, quoi. Donc ça, je recommande.
Je voulais savoir si tu avais une habitude matinale incontournable.
Écouter de la musique.
Ouais, dès le réveil.
Ouais, c'est comme se laver les dents. Pour moi.
Sur toute ta routine, t'as de la musique en toile de fond.
Ouais, tout le temps. Enfin, il y a des moments de pause quand même. Mais le matin, si j'ai pas c'est comme le café. Si j'ai pas un peu de musique dans les oreilles, c'est triste. Je suis de mauvais poil.
Des nouveautés pour découvrir ce qui se fait ou des bons vieux classiques
En musique?
Ouais, ce que t'écoutes le matin.
Ah bah c'est la musique, là en ce moment c'est Lucy Rose, mais c'est en fait la musique que j'ai en tête en ce moment ou dans le cœur en ce moment. Donc ouais, Lucy Rose, là j'aime bien Bang Jayar. Ça peut être des chansons hyper badantes aussi. Si j'ai fait un mauvais rêve, je vais me mettre dans un truc un peu plus Michel Berger. Ça peut être... ouais.
Est-ce que tu as une peur irrationnelle?
On est vraiment dans ça là, Jordan?
Ouais, complètement.
Une peur irrationnelle. Oui, j'ai une peur irrationnelle. J'ai un peu cette peur d'être abandonné, oui, ça oui.
Tu veux revenir au Rocco, j'ai compris. Tu parlais de Jedi.
Non.
Un truc qui t'a marqué, que ce soit en télé, en série. Parce que je sais que t'aimes beaucoup ça. Je crois qu'il y a des films d'Audiard qui t'ont inspiré des clips et tout.
Ouais.
Si je suis bien renseigné.
Et t'es très très bien renseigné, ouais. Et totalement. Là en ce moment, j'aime bien The Bear. Franchement.
Il paraît que c'est pas mal.
Bah, tu l'as pas vu?
Non.
Oh, Jordan, il faut que tu le vois. Vraiment. Bah, là, pour le coup, en plus, il y a une photographie qui est trop cool, moi, qui m'inspire pas mal là, pour les clips auxquels je pense en ce moment. C'est joli, la partition, elle est trop cool, et les acteurs. Bon, voilà, en plus, là, ils viennent d'être primés, donc c'est chambé.
Ouais.
Ouais, j'ai beaucoup aimé cette série. J'adore The Crown. Je suis méga fan de... Alors, je sais qu'il y a deux teams. Hein. Il y a ceux qui trouvent ça hyper ennuyant et ceux qui trouvent ça magnifique. Moi, je suis de la team magnifique. En plus, voilà, Diana, elle est incroyable. Les sapes. Non, c'est fantastique. Cette série, moi, je l'adore. Et puis, surtout, Philips, le compositeur de la partition là, de cette série-là, est incroyable. Je ne sais pas si tu l'as écouté, la BO, mais...
Ah oui, moi, je suis à fond sur The Crown.
Ah, c'est vrai.
Il manque la dernière partie, mais...
Moi aussi. Je me suis laissé ça, tu sais, en mode amuse-bouche. Quand j'aurai un peu de temps, là, en ce moment, je vais me caler dessus, ça va binger fort.
Et en plus, dans les séries, et même au cinéma, il y a plus d'artistes qui viennent de l'indie, qui se mettent au BO.
Ouais.
Et je trouve que le résultat est assez canon.
Ouais, ça tue.
Bon, là, je cite un nom vraiment gros, mais quand tu vois le gars de Radiohead qui fait des BO, ouais, Johnny Greenwood et tout, le résultat est canon, quoi.
Et moi, c'est un rêve. Ça, ce serait un rêve à bon entendeur, mais j'adorerais faire ça. J'ai déjà un peu commencé. Là, on m'a appelé pour un cours qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle She's Ho Ho, qui a été primé là aux États-Unis. J'ai plus en tête le festival de Floride, voilà. Donc j'ai eu déjà une première expérience de musique à l'image, mais c'est quelque chose. Je trouve ça indissociable l'image et le son. J'aime trop ça. Et ouais, donc ça me paraît pas déconnant qu'il y ait des artistes de l'indie qui s'y attellent et qui se mettent sur le dos. Je trouve ça très cool.
Et en même temps, c'est l'inverse de ce que tu fais avec le projet Joan Radao, parce que là, en termes de contraintes. Il y a tout, quoi. Enfin, tu vas te calquer vraiment un truc, un tempo.
Ouais. Ah, t'es en train de me coincer. Mais on est paradoxe. Je t'ai parlé de paradoxe. Voilà. Je pense que si j'arrive à préserver mon espace de liberté qui est Joan Radao, je peux m'autoriser des espaces de contrainte. Et finalement, par la contrainte, on est encore plus libre, tu vois. Il y a aussi ce truc-là. Quand t'es coincé avec des règles, en fait, comment on fait pour les contourner? C'est toute ma problématique en permanence, tu vois.
Je parle de contraintes, mais c'est plus un cadre en vrai. Ça permet d'aller vers des zones inexplorées. Je trouve ça pas mal.
Franchement, tu vois, même écrire pour les autres, ça me plaît. Encore une fois, si à côté, j'ai mon espace d'expression plein, et Joan Radao, c'est mon espace d'expression absolu.
Les trois dernières questions maintenant. Est-ce que tu aurais quelqu'un à me conseiller pour que j'invite à mon micro et qu'on fasse le même exercice qu'on a fait ensemble? Quelqu'un que tu connais, que tu connais pas, qui t'inspire, peut-être un artiste musical, mais pas que.
Waouh! C'est une bonne question, ça. Qui je te recommanderais pour parler au micro? Tu parles en anglais un peu ou pas?
Bon, on peut se débrouiller.
Paul Mescal, il est trop cool. Non. Que je connais, parce que lui, je ne le connais pas, mais je rêverais de le connaître. Bah, en vrai, les Makoto San, hein. Bon, là, c'est des copains musiciens. Et je trouve leur projet très, très intéressant.
Question peut-être la plus philosophique. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton parcours professionnel, j'entends, à qui tu aimerais dire pardon?
Non. Non, non, non. Ce que j'ai à dire, je le dis, hein. Et je l'ai dit, vraiment pas.
Même à la petite Joanne d'avant?
Ça, je devrais, mais j'ai pas encore réussi à le faire.
Ouais.
Et tout simplement, pour terminer, bon, je sais que tu as des aspirations assez hautes pour ce projet Joanne Radao, et tant mieux, j'ai envie de dire. Mais est-ce qu'à l'instant T, au moment où on se parle, tu as atteint une sorte de quiétude, de plénitude professionnelle? Est-ce que tu es vraiment content de là où tu en es actuellement sur ce pan-là?
Oui. Oui, je crois que je suis là où je dois être. Je suis épanoui et je souhaite à tout le monde de ressentir ce truc-là. C'était dur d'arriver à ça. C'était pas un long fleuve tranquille et c'est pas fini. Mais ouais, là je kiffe. Et puis j'adore parler avec toi. Tu vois, là, je suis trop heureuse.
Ben merci beaucoup, Joanne.
Merci, Jordan. C'est cool.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Joanne Radao. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.